Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable si nous ne nous relâchons pas. Bonjour à tous, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cela fait un long moment et je reviens vers vous parce que c'est mon devoir et parce que, à cause de notre grand besoin, du grand besoin qui est le nôtre dans la période dans laquelle nous vivons actuellement, mais qui était le nôtre même dans la période dans laquelle nous vivions il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans même, mais je pourrais même dire depuis le début du jugement investigatif 1844. Toutefois, c'est encore plus le cas maintenant, parce que tandis que les événements montrent que l'humanité est sur le précipice de la fin du temps de grâce, etc., et également de la fin de toutes les occasions possibles pour nous de nous former un caractère à la ressemblance de Christ, eh bien, tandis que tous ces événements-là se font jour, comme on peut le voir aujourd'hui, a fortiori aujourd'hui, plus encore que dans les quelques années passées, dans les quelques mois même passés, eh bien, ceux qui voient, si nous voyons cela aujourd'hui, si nous sommes de véritables étudiants des prophéties, eh bien, frères et sœurs, j'aimerais vous partager que, en tant que véritables étudiants de la prophétie, confrontés à ces développements des événements, nous nous verrons et nous nous voyons confrontés à plusieurs choses. D'une part, au sentiment effroyable de l'élargissement du règne du diable sur la terre que ces choses annoncent. Et d'autre part, au sentiment de notre grand et grandissant besoin d'être et de vivre comme de vrais chrétiens. Ce que d'ailleurs le monde, avec son iniquité multipliée et grandissante également, rend de plus en plus difficile et même, devrait-on dire, indésirable. C'est-à-dire que le monde, avec son iniquité multipliée, comme c'est marqué dans les paroles prophétiques de Matthieu chapitre de Jésus, dans Matthieu chapitre 24, verset 12, je pense, eh bien, il rend difficile et plus encore indésirable, même pour les croyants et disciples de Jésus, la marche, la vraie marche chrétienne. Ce sont donc les deux sentiments auxquels les véritables étudiants des prophéties se verront, qu'ils ressentiront quand ils se voient confrontés à ces événements. À savoir, je le répète, le sentiment effroyable de l'élargissement du règne de Satan, parce que le règne de Satan grandit au fur et à mesure que les hommes refusent et rejettent l'Esprit de Dieu. Donc cela élargit son règne, c'est-à-dire que vous ressentez la pénombre satanique sur ce monde, qui s'abat sur ce monde progressivement. Et d'autre part, en parallèle à cela, c'est le sentiment que vous et que nous n'y sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas vécu, nous ne vivons pas comme de véritables chrétiens ou comme nous le devrions. Donc ce sont les deux sentiments parallèles qui nous influenceront, qui traverseront notre organisme si toutefois nous avons une certaine conscience des événements. Alors, si nous n'avons pas cette conscience, eh bien la suite, si nous ne l'avons pas déjà, la deuxième réalisation. J'aimerais, pour commencer cela, lire la citation suivante qui se trouve dans la Tragédie des siècles, à la page 666, paragraphe 1er, qui nous dit ceci au sujet justement de ce règne grandissant de Satan qui sera rendu total après la fin du temps de grâce. Comme c'est écrit ici, je le lis sans plus tarder. Au moment où il, Jésus, quittera le sanctuaire céleste, les habitants de la terre seront plongés dans les ténèbres. Hein, plongés dans les ténèbres. Hein, comme nous voyons les ténèbres déjà aujourd'hui. Ils seront plongés dans les ténèbres. À cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la face de Dieu sans intercesseur. Oui, sans intercesseur parce que Jésus aura quitté le sanctuaire. À cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la face de Dieu sans intercesseur. Les restrictions qui pesaient sur les pécheurs étant levées, Satan exercera un empire absolu sur les impénitents et irréductibles. Qu'est-ce qui est levé? Les quatre vents. Les quatre vents sont maintenant relâchés. Les restrictions sont levées. Satan exercera donc un empire absolu sur les impénitents irréductibles. La grâce divine sera parvenue à son terme, donc c'est la fin du temps de grâce, hein, la grâce divine est parvenue à son terme. Le monde aura rejeté la miséricorde de Dieu, méprisé son amour et foulé aux pieds sa loi. Les méchants auront franchi les limites de leur temps de probation, temps de probation, temps de grâce, c'est synonyme. L'Esprit de Dieu auquel ils auront obstinément résisté leur sera enfin retiré. L'Esprit de Dieu est retiré à ceux qui y ont obstinément résisté. Ensuite, ça continue. N'étant plus protégés par la grâce divine, ils seront donc à la merci de Satan. Vous voyez, c'est l'empire, hein, l'empire absolu de Satan. Ils seront à la merci de Satan, qui plongera alors les habitants de la terre dans la grande détresse finale. C'est le temps de détresse de Jacob. Les anges de Dieu ayant cessé de tenir en échec les vents violents des passions humaines, hein, les quatre vents d'Apocalypse chapitre 7, tous les éléments de discorde seront déchaînés, le monde entier passera par une catastrophe plus redoutable que celle dans laquelle périt l'ancienne Jérusalem. Ce sont donc les choses auxquelles nous, en tant qu'étudiants de la prophétie, nous sommes ici en train d'étudier l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, et donc nous sommes des étudiants de la prophétie, non seulement biblique, mais des révélations clarificatrices, des réelles connotation de chacun de ces passages clés de la parole de Dieu qui nous annonce ce temps à venir, le jour de l'Éternel, le temps de vengeance de notre Dieu, etc., la fin du temps de grâce, le temps des sept plaies d'Apocalypse chapitre 16. Eh bien, nous alors, en étudiant ces choses-là, nous sommes confrontés vis-à-vis des événements et des développements actuels à ce sentiment de l'élargissement du règne de Satan. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Pour que nous réalisions la réalité. Afin que nous puissions ressentir notre besoin. Et en lien avec cela, bien entendu, ce sont les fameuses paroles d'Apocalypse chapitre 22, n'est-ce pas? Parce que lorsque la grâce divine a cessé ses appels, comme nous venons de le voir ici, dans cette brève citation de la Tragédie des siècles, la déclaration suivante sera faite d'une manière ou d'une autre, ou plutôt dans les faits plutôt que par des paroles, à savoir Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12, qui dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or voici, je viens bientôt et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Qui est celui qui parle? Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, ce n'est autre que Jésus. Jésus dit, je viens bientôt, j'ai mon salaire avec moi et à ce moment-là où je viens, celui qui est injuste continuera d'être injuste, celui qui est souillé continuera de se souiller. Mais au même moment, par contraste, nous lisons au sujet des autres, de l'autre catégorie, la catégorie des Abel, que ceux qui sont justes deviendront plus justes encore et que celui qui sont saints se sanctifieront encore davantage. Donc il y a une continuité des caractères qui ont été, ou je devrais dire du caractère qui a été formé, d'une part du caractère injuste et souillé et d'autre part du caractère juste et saint. Ceux qui sont injustes et souillés deviendront plus injustes et se souilleront encore davantage, tandis que de l'autre côté, ceux qui sont justes et saints deviendront plus justes encore et se sanctifieront encore davantage, selon les paroles de l'Apocalypse. Et donc, c'est également, bien entendu, ce que l'esprit de prophétie nous confirme à de nombreuses reprises et également dans ce passage tout particulier que je vais vous partager ici, qui nous permet de jeter sur la toile les couleurs qui ont été fournies par l'esprit de prophétie, je le lis. Notre temps de grâce, donc ça se trouve dans la Review and Herald du 23 octobre 1888, paragraphe 8, ainsi. Notre temps de grâce prendra bientôt fin. Bientôt, la voix venant du trône se fera entendre disant que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. L'œuvre de la rédemption de l'homme sera bientôt terminée. La dernière prière pour les pécheurs aura été offerte. Les dernières larmes versées, le dernier avertissement donné, Satan sait tout cela. Et il déploie un dernier et puissant effort pour détruire les âmes. Il s'efforce tout particulièrement d'attirer dans ses rangs ceux qui se disent disciples de Christ. Car c'est par leur intermédiaire qu'il peut détruire les autres avec le plus d'efficacité. Pendant que les chrétiens dorment à leur poste, Satan est actif, vigilant et infatigable. Personne n'est à l'abri de ses ruses. Nous jouons tous au jeu de la vie. Et Satan travaille avec toute son habileté et sa ruse pour nous priver de toutes les grâces célestes et pour introduire à leur place les passions du cœur charnel. Il n'est jamais loin du guet, il se tient prêt à exploiter chaque moment d'inattention et à nous assaillir à chaque point faible. Il poursuit son œuvre avec toute la tromperie de l'injustice. C'est une déclaration qui nous permet de saisir la réalité derrière les coulisses des événements que nous voyons annonçant la fin du temps de grâce. Nous voyons. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous approchons de la fin de ce temps de grâce, lorsque la voix dira du trône que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est juste devienne plus juste encore et se sanctifie davantage, tandis que nous approchons de ce temps-là et que l'œuvre de la rédemption de l'homme et sur le point de prendre fin, Satan, sachant tout cela, déploie un dernier et puissant effort pour faire quoi? Pour faire tomber, tout particulièrement, ceux qui se déclarent disciples de Christ. et qui dorment à leur poste. Vous voyez? Donc lui ne dort pas, mais nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, ou du moins en tant que personnes qui prétendons être disciples de Jésus, nous sommes en danger de dormir à notre poste, ce qui est tout à fait dangereux pour nous parce que lui ne dort jamais. Et donc, tandis que nous vivons en ces instants fatidiques, eh bien, nous avons plusieurs éléments qui attirent notre attention vers donc la fin de ce temps de grâce. Le premier de cela, et le principal, ce sont les développements au Moyen-Orient, où se présente à nous, par-dessus tout, l'accomplissement imminent des paroles de Daniel chapitre 11, verset 45. Daniel, chapitre 11, verset 45, où nous lisons que le roi du Nord, qui était présenté au verset 40, il, c'est la continuité, fera quoi ? Dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte, puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. Cela ne parle d'autre que du roi du Nord, à savoir la puissance qui occupait le territoire de l'Asie mineure, qui était jadis l'un des quatre généraux d'Alexandre après que Alexandre soit mort et qui ensuite devint par extension le royaume de Séleucos, je crois qu'on dit en français. Mais à l'origine, ce roi du Nord, c'était la puissance, le royaume qui occupait le territoire de l'Asie mineure. Et aujourd'hui, eh bien, cette puissance, ce n'est autre que la Turquie. Et c'est d'ailleurs ce que les adventistes du septième jour ont toujours, depuis même leur balbutiement dans les années 1840, enseigné, à savoir que le roi du Nord, ce n'était autre que, jadis, la puissance ottomane, et plus tard, vers la fin des années 1800, la Turquie. Et donc, la prophétie de Daniel chapitre 11, verset 45, nous annonce que le roi du Nord, la Turquie moderne, placerait à savoir les tentes de son palais, c'est-à-dire le quartier général de son gouvernement, ou on devrait dire le siège temporaire de son gouvernement, de Constantinople. Ensuite, bien entendu, leur siège a été déplacé à Ankara, mais plutôt d'Ankara à Jérusalem, entre les mers, c'est-à-dire entre la Méditerranée et la mer morte, c'est-à-dire entre ces deux mers se trouve la montagne glorieuse et sainte Jérusalem. Et donc la prophétie nous annonce que la Turquie viendrait placer le siège temporaire de son gouvernement au sein même, au cœur même de la nation d'Israël. Et donc les événements auxquels nous assistons aujourd'hui, avec toutes ces factions rebelles, islamistes, autour d'Israël, tous ces mouvements, tous ces soulèvements, tous ces agissements impopulaires, ces génocides, etc., toutes ces guerres, etc., annoncent l'imminence du moment où, comme il est marqué dans Apocalypse chapitre, pardon, Daniel chapitre 12, verset 1, Michaël se lèvera. Donc, toute cette configuration et ce développement au Moyen-Orient nous annonce juste précisément le moment à venir en vue duquel, et parce qu'il en est conscient, Satan déploie tant d'efforts. Pourquoi déploie-t-il tant d'efforts? Parce qu'il sait que ce moment arrive, d'ailleurs il y travaille, et il cherche à précipiter les hommes dans la perdition. Alors, et au fur et à mesure qu'il s'approche de ce temps où les hommes se trouveront par la suite sans intercesseur devant Dieu, comme nous l'avons vu. Et donc, au Moyen-Orient, d'une part à l'Est, hein, l'Orient c'est l'Est, nous voyons d'une part l'accomplissement imminent qui déclare la fin du temps de grâce, de cet événement qui déclare et qui annonce la fin du temps de grâce, lorsque le roi du Nord, la Turquie d'aujourd'hui, dressera les tentes de son palais sur la montagne glorieuse de Sainte, à savoir Jérusalem, après quoi Jésus, à savoir Michael, se lèvera, c'est-à-dire enlèvera, comme le déclare l'esprit de prophétie si bien dans la tragédie des siècles, enlèvera ses robes de souverain sacrificateur et se revêtira des robes de roi et de guerre. Et pendant que ces choses se trament à l'Est, eh bien, à l'Ouest, aux États-Unis d'Amérique, tout particulièrement, nous voyons les événements également là-bas, de différentes natures, converger vers une résurgence de l'ancien totalitarisme romain et d'ailleurs papal, et également vers une résurrection, tant dans l'opinion publique que dans les institutions gouvernementales, des lois du dimanche. On le voit, c'est ce que on voit particulièrement dans le passage d'Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 17, au sujet de cette autre bête qui... comme on le lit ici, je vais juste reprendre le langage d'Apocalypse chapitre 13. Cette autre bête qui monte de la terre, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait toutefois comme un dragon et qui exerçait toute la puissance de la première bête, c'est-à-dire la papauté avant elle dans l'ancien monde, cette fois-ci dans le nouveau monde, en sa présence et qui faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête et elle opérait verset 13 de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, du feu, par exemple dans Nagasaki, Hiroshima, c'était comme jamais auparavant, du feu descendant sur la Terre. Parce que c'est une bombe atomique, ce n'est pas du feu venant du sol, mais c'est du feu qui descend sur la Terre. C'est-à-dire que l'explosion a lieu avant de toucher même le sol. Donc c'est assez propre à une bombe atomique. Et donc, et en opérant tous ces produits, non seulement cela, mais verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, etc. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, c'est-à-dire une ressemblance à la bête, la première bête qui était la papauté, à savoir une ressemblance de l'union de l'Église de l'État, afin que l'image de la bête parlât et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, etc. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête. Et l'esprit de prophétie nous permet de raccourcir ces quelques réflexions sur les événements qui se trament à l'ouest, tandis que les autres se trament à l'Orient, au Moyen-Orient, à l'Est. Dans Événements des derniers jours, à la page 101, paragraphe 6, nous lisons le suivant. La corruption politique détruit l'amour de la justice et le respect de la vérité et, même en Amérique libre, les responsables et les législateurs, dans leur recherche de la faveur du public, céderont à la demande populaire de promulguer une loi exigeant l'observation ou l'observance du dimanche. Hein, donc, vous voyez, tout cela est très lié à la corruption politique pourvoit à cette recherche de la part des responsables et des législateurs de la faveur du public et c'est ainsi qu'ils céderont à une demande populaire mais fabriquée de promulguer une loi exigeant l'observation du dimanche. Et plus encore, à la page 101, paragraphe 2, nous lisons « Les protestants placeront toute leur influence et toute leur force du côté de la papauté. Par une loi nationale imposant le faux sabbat, ils donneront force et vigueur à la foi corrompue de Rome, réveillant sa tyrannie et son goût pour l'oppression des consciences. » Et plus encore, À la page 101, paragraphe 5, nous lisons: la prophétie d'Apocalypse 13 déclare que le pouvoir représenté par la bête, avec deux cornes semblables à celles d'un agneau, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, c'est-à-dire la papauté, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Cette prophétie sera accomplie lorsque les États-Unis imposeront l'observance du dimanche, que Rome considère comme le signe de sa suprématie. Donc voilà ici tous les événements, hein, plus d'autres encore, bien entendu, à savoir les fameux événements que Jésus avait annoncés comme annonçant et comme étant précurseur de son retour, à savoir des tremblements de terre, des famines, des inondations, des déluges, etc. Toutes ces choses ici également contribuent à annoncer le retour de Jésus, mais particulièrement à l'est et à l'ouest, ces développements donnent à l'étudiant de la prophétie une conscience de l'imminence de la fin du temps de grâce, tout particulièrement au Moyen-Orient, parce que c'est cet événement-là qui est la plaque tournante, pour ainsi dire. Et donc, frères et sœurs, hein, ce n'est pas tout d'ailleurs, ce n'est pas tout. Parce que ces choses-là contribuent à nous donner un sentiment, une réalisation de l'imminence, mais la réalisation à laquelle l'Esprit de Dieu cherche à nous conduire à travers tous ces développements sans précédent et historiques est celle, par-dessus tout, de notre grand besoin spirituel. Et, pas simplement cela, mais également de la manière dont nous pouvons le satisfaire ce besoin et répondre à ce besoin. D'ailleurs, ce besoin est en grande partie exprimé dans les paroles de 2 Pierre chapitre 3. Je vous y invite. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 14. Où d'ailleurs l'apôtre Pierre parle exactement du retour de Jésus. De Pierre chapitre 3 versets 10 à 14. Or, hein, au sujet de ce retour de Jésus, pas simplement le retour physique en gloire, mais le retour tel qu'il l'annonçait dans Matthieu chapitre 24, dans les versets à partir du verset 43 jusqu'à 48, Jésus parle d'un retour où il vient comme un voleur. Donc ce n'est pas le retour où il vient en gloire et on le voit sur les nuées, mais un retour où personne ne sait s'il est revenu, si ce n'est ceux qui ont déjà une relation avec lui, mais qui ont vu et ont compris ses paroles prophétiques annonçant un temps précisément invisible, si ce n'est à l'étudiant des prophéties, à savoir Daniel chapitre 11, verset 45. Or, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. » Donc de quel jour s'agit-il? Non pas du jour où il viendra sur les nuées, mais du jour où il s'opère un changement dans son intercession, à savoir qu'il n'intercède plus. Il dépose ses vêtements de sacrificateur et maintenant il se revêt d'autres vêtements, de vêtements de vengeance, comme l'Esprit de prophétie nous le précise. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, à savoir que vous ne savez pas qu'il vient, à savoir si ce n'est que vous avez été préalablement averti. Mais pas parce que vous pouvez le voir, mais parce qu'on vous a averti. Qui nous avertit de la venue du larron dans la nuit, à savoir de Jésus, la venue invisible et inconnue si ce n'est par la parole? La parole elle-même, la prophétie. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, en ce temps-là, c'est-à-dire pas à ce moment-là, mais par la suite. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Verset 11, voilà la réalisation. La réalisation et l'exhortation. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Qu'attendons-nous? Nous n'attendons pas que nous puissions rester sur cette terre indéfiniment, car nous avons reçu comme promesse non pas une prolongation et un prolongement de cette existence, mais de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite et habitera, à la différence de cette terre et de ces cieux, sous lesquels souvent nous amassons nos trésors, mais qui, nous avons été avertis, sera et seront dissous, embrasés, se fondront. Quel ne devez-vous donc pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété? Tel est le changement de paradigme et l'exhortation et la réalisation à laquelle la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu cherchent à nous conduire au vu des événements et des développements qui se trament sous nos yeux, ébahis, frustrés, tristes, peinés et souvent en détresse. Mais Dieu cherche à transformer cette détresse dans une motivation pour réellement vivre et à pouvoir nous distinguer par notre conduite et notre piété. Mais alors, ce genre de personne que nous devrions être, comment la Bible exprime cela dans des termes plus précis encore? Galates chapitre 5, verset 16. Verset 16 et ensuite verset 19 et verset 25. Nous voulons nous rapprocher, nous, d'une clarté sur ce genre de personne que nous sommes appelés à être et que nous ne sommes pas. Galates chapitre 5, verset 16, nous lisons « Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. » Verset 17 « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. » Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire la condamnation de la loi. Verset 19, maintenant, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc, la parole de Dieu est destinée à nous faire trembler devant l'incapacité pour nous d'hériter du royaume de Dieu. En conséquence de du fait que nous sommes précisément définis par cette liste. Mais, verset 23, « Mais le fruit de l'esprit est la charité, à savoir plutôt l'agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour divin. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Voilà donc un énoncé, une liste des choses qui permettent de rétrécir la définition, ou je devrais dire de préciser la définition du genre de personne que nous devrions être au vu des choses qui viennent sur la terre. Mais pas simplement au vu des choses qui viennent sur la terre et du temps imminent, mais au vu du sacrifice qui a été fait, parce que la parole de Dieu également nous présente le sacrifice de Dieu, de Jésus, de Dieu en Jésus, comme la motivation suprême, mais elle nous parle également de l'imminence du temps pour nous diriger vers le mobile premier. Donc, ce n'est pas que nous devrions être de tels gens parce que nous n'avons que peu de temps, mais que le peu de temps qui nous reste devrait désormais être la raison pour laquelle nous décidons de nous concentrer sur ce qui aurait déjà dû être notre concentration. C'est plutôt cela, vraiment, la réalisation vers laquelle l'Esprit de Dieu cherche à nous conduire à travers non seulement les événements, mais prioritairement la parole de Dieu. Et des déclarations qui ont déjà été faites à de nombreuses reprises dans l'esprit des prophéties que souvent nous évitons parce que l'esprit des prophéties nous appelle à des changements quotidiens de vie qui souvent ne sont pas en accord avec les œuvres de la chair avec lesquelles nous sommes devenus amis. Hein, donc vous comprenez ici. Et j'aimerais lire également la citation suivante qui se trouve dans le livre Éducation, page 210 et paragraphe 3, qui met en avant à la fois le moment qui est proche, mais pas simplement le moment qui est proche et imminent, mais l'œuvre qui nous incombe avant ce temps. Je le lis. Le jour est proche. Il nous faut apprendre, travailler, transformer notre caractère. Pour tout cela, le temps est court. Et comme c'est écrit en anglais, j'aime bien comment c'est écrit en anglais, c'est plus proche, à l'évidence. Je le lis littéralement. Pour que les leçons soient apprises, pour que l'œuvre soit accomplie, pour que la transformation de caractère soit effectuée, le temps qui nous reste n'est que trop court. Hein, pour apprendre les leçons, pour accomplir l'œuvre, pour accomplir également la transformation de caractère, le temps qui nous reste n'est que trop court, disait la servante du Seigneur en 1903. Et donc aujourd'hui, nous sommes à deux pas, quelques secondes prophétiques, de la fin du temps de grâce, et il nous incombe, comme jamais il nous est incombé par le passé, de prendre au sérieux les choses qui sont évidentes et criantes, mais qui toutefois nous étaient disponibles bien avant. Et donc, la transformation de caractère est l'œuvre à laquelle nous devrions participer avec Dieu. Hein, vous l'avez lu ? Nous faut apprendre, travailler, transformer notre caractère. Pour tout cela, le temps est court. Ou comme c'était marqué en anglais, pour apprendre les leçons, pour accomplir l'œuvre, pour la transformation de caractère en nous, le temps qui nous reste n'est que trop court. La transformation de caractère, l'accomplissement de l'œuvre, l'apprentissage des leçons, toutes ces choses sont celles que Dieu nous destine pendant le temps de grâce qui nous est accordé et qui est sur le point de se terminer. Donc, le fait que le temps de grâce se termine est une chose, mais la chose que nous devrions faire pendant le temps de grâce qui nous est accordé est celle sur laquelle nous voulons nous concentrer. Pas simplement que le temps de grâce prend fin, parce que si nous disons que le temps de grâce prend fin, mais que nous ne nous concentrons pas sur ce qui nous incombe de faire pendant le temps restant, alors nous n'avons pas compris la leçon, nous n'avons pas ressorti la bonne conclusion. Toutefois, c'est important de le déclarer parce que beaucoup arriveront au jour du retour de Jésus et ne seront pas prêts. Comme Jésus d'ailleurs l'avait prophétisé dans Matthieu chapitre 24 vers la fin du chapitre. Et donc, frères et sœurs, l'appel qui nous est lancé, si nous avons gaspillé notre temps de grâce, qui est destiné d'ailleurs à nous permettre d'obtenir une transformation de caractère, si nous avons gaspillé ce temps de grâce, je vous invite à réfléchir attentivement, non pas parce que je le dis, mais parce que je suis en train de lire l'esprit de prophétie, dans le foyer chrétien à la page 16 et paragraphe 2, qui nous dit le suivant. Si vous avez cessé de vous comporter comme des chrétiens attachés à la Bible, convertissez-vous. Car le caractère que vous manifestez pendant le temps de grâce sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue de Christ. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et dans la société. Jésus ne change pas le caractère au moment de son avènement. L'œuvre de transformation doit s'accomplir maintenant. Notre façon de vivre chaque jour détermine notre destinée. Hein? Ou littéralement, notre vie quotidienne détermine notre destinée. Hein? Donc, non pas des grandes décisions que nous prendrons dans des moments terribles et solennels, mais notre vie quotidienne est celle et ce qui définit et détermine notre destinée. Et donc, c'est très important parce que nous voyons que si nous avons cessé de nous comporter comme des chrétiens attachés à la Bible, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? À nous convertir. Mais notre conversion est directement liée à notre vie quotidienne. Vous voyez, donc c'est un peu un déséquilibre de réflexion parce que nous avons peut-être tendance à penser que notre conversion est liée à un seul moment. Sauf que la parole de Dieu, ainsi que bien entendu l'esprit de prophétie, attire notre attention vers le fait qu'une conversion est une activité quotidienne. À savoir que notre conversion est liée à nos décisions. À savoir que notre conversion n'est pas une œuvre d'un instant, ou d'une journée, ou d'un mois, ou d'une année, mais de notre vie tout entière. À savoir que notre conversion est déterminée par nos choix quotidiens, parce que notre vie quotidienne détermine notre destinée. À savoir, notre conversion est liée à la transformation du caractère. Et celle-ci ne peut qu'être opérée par notre coopération quotidienne avec Dieu. Vous voyez que je n'ai fait que jeter quelques conclusions sur les choses qui ont déjà été déclarées. Les choses sont présentes. Je ne fais qu'ajouter quelques paroles pour éclaircir notre méditation. Et donc, frères et sœurs, maintenant que nous voyons tout cela et que j'espère nous sommes secoués à l'intérieur de nos entrailles, parce que si nous sommes secoués, c'est bien. J'ai entendu un témoignage récemment d'une personne qui confessait sa grande culpabilité d'une chose qu'elle avait faite qui était abominable. Beaucoup des choses que nous faisons sont abominables aux yeux de Dieu. Et donc, notre langage, ou le langage des autres, ou notre réflexion ne devrait pas être que nous ne devrions pas nous sentir aussi coupables. La culpabilité est bonne, elle est nécessaire, d'ailleurs c'est l'Esprit de Dieu qui l'inspire. Simplement, lorsque nous avons ressenti la culpabilité, l'évangile de Jésus-Christ est destiné à nous délivrer, à nous ôter cette culpabilité à travers le sang de Jésus par notre foi en Christ. Ainsi donc, si notre culpabilité continue après que nous ayons confessé nos péchés, c'est là que nous avons besoin de foi. Si nous sommes incrédules, nous avons besoin de foi pour croire en l'œuvre que Jésus a opérée à la croix. Toutefois, nous voyons à travers les quelque chose que nous avons vu, et comme nous allons d'ailleurs le voir par la suite, que cela ne s'arrête pas là. Et j'aimerais justement vous partager ces pensées ici. Parce que nous avons réfléchi à quelques aspects, mais nous n'avons pas réellement élaboré et élargi sur le comment. Et donc, frères et sœurs, si nous sommes confus ou jetés dans la détresse au vu de cette tâche, à juste titre, gigantesque, qui est la transformation de notre caractère, hein, parce que si c'est le caractère des autres, ce n'est pas un problème, parce que vous vous dites, ils se géreront, hein, ils géreront leurs problèmes, c'est leur caractère, ça ne nous concerne pas. Mais si c'est notre caractère, alors nous sommes confrontés vers une tâche gigantesque, parce que notre caractère est défini par nos notre vie quotidienne. Et notre vie quotidienne, souvent, est entachée par des actions, des pensées, des façons de parler ou d'agir qui ne sont pas conformes, ressemblantes à la vie de Jésus. Et donc, si, je le répète, nous sommes confus ou jetés dans la détresse au vu de cette tâche gigantesque qui est la nôtre, dans la transformation de notre caractère, et que donc nous demandons, mais comment? Eh bien, les paroles suivantes nous sont adressées dans les paraboles de Jésus, à la page 78, paragraphe 2, jusqu'à la page 79, paragraphe 1er. Où je lis le suivant, nous sommes vers la fin. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Les Écritures sont le plus puissant agent de transformation du caractère. Vous, on réfléchissait à la transformation du caractère. La transformation du caractère, les leçons à apprendre, l'œuvre à accomplir sont les choses pour lesquelles nous n'avons que trop peu de temps. Mais alors, quand bien même nous avons peu de temps, n'avons-nous aucun moyen? La réponse est que non. Nous n'avons pas aucun moyen, ou je devrais dire, nous avons des moyens. Et nous lisons que les Écritures sont le plus puissant agent ou moyen de transformation du caractère. Eh bien, frères et sœurs, nous avons tous la parole de Dieu. Hein, aujourd'hui, qui n'a pas la parole de Dieu? Vous pouvez même l'avoir sur votre téléphone et en dur, même je sais que beaucoup de personnes l'ont même en dur, et ils ont la parole de Dieu. Donc, la possession de la parole de Dieu n'est pas le problème. Mais, regardez ici. Christ priait ainsi, je cite, « Sanctifie-les par ta vérité. » Sanctifie-les, transforme-les. « Ta parole est la vérité. » Jean chapitre 16, enfin, chapitre 17, verset 17. La parole de Dieu agit dans le cœur de celui qui l'étudie et y obéit. Elle y subjugue toutes les mauvaises inclinations. Le Saint-Esprit, hein, la parole de Dieu n'est pas seule, parce que lorsque nous venons à la parole de Dieu, si nous demandons l'aide de Dieu, alors le Saint-Esprit va également faire quelque chose dans cette lecture et cette obéissance, cette soumission à la parole de Dieu que nous lisons et nous étudions. Le Saint-Esprit, je continue, le Saint-Esprit intervient pour convaincre de péché. Hein, je parlais de la culpabilité. Lorsque nous nous sentons coupables, c'est le Saint-Esprit qui intervient pour convaincre de péché, nous convainc du péché. Donc si nous avons une conviction de péché, ça ne vient pas de nous. Et à moins que ce soit quelque chose de récurrent et qui ne parte pas, ça ne vient pas non plus du diable. Hein? Si nous restons dans cela, oui, c'est l'œuvre du diable. Mais si nous ressentons cela, ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je continue. Le Saint-Esprit intervient pour convaincre de péché. La foi naissante opère par l'amour de Christ et transforme corps, âme et esprit à l'image du Seigneur. Dès lors, Dieu peut nous employer pour faire sa volonté. La puissance qui nous est donnée opère du dedans au dehors et nous pousse à faire part à d'autres de la vérité qui nous a été révélée. Vous voyez un peu? Le rôle des Écritures comme un agent dans la transformation de notre caractère pour lequel il ne nous reste que si peu de temps. Toutefois, pour celui qui obéit et qui étudie et qui obéit la parole de Dieu, celle-ci est l'agent de transformation, le plus puissant agent de transformation du caractère. Pour celui qui étudie et obéit cette parole. Donc si nous étudions mais que nous n'obéissons pas, il ne sera pas cet agent. Mais si nous étudions et nous obéissons, nous avons une espérance d'avoir une transformation de notre caractère, quand bien même il ne nous reste que si peu de temps pour l'accomplir, pour apprendre les leçons. Vous réalisez? Je continue. Les enseignements de la parole de Dieu satisfont, c'est-à-dire ils satisfont, du verbe satisfaire, les enseignements de la parole de Dieu satisfont le besoin principal de l'homme, de point, la conversion de l'âme par la foi. Hein, c'est-à-dire, la parole de Dieu, si nous l'étudions et nous y obéissons, contribue à notre conversion. Parce qu'en étudiant et obéissant la parole, pas juste étudier, mais en obéissant également la parole de Dieu, cela contribue à notre conversion, c'est-à-dire à notre transformation de caractère. Ces grands principes ne doivent pas être regardés comme trop purs et trop saints pour être mêlés à notre vie journalière. Ces principes atteignent jusqu'au ciel et embrassent l'éternité. Cependant, leur influence vitale doit se manifester dans chaque détail de notre vie. Reçu dans le cœur, le levain de la vérité disciplinera les désirs. Non, pas juste reçu dans l'intelligence, pas juste reçu dans l'intellect, pas juste reçu dans la théorie, reçu dans le cœur. Si nous méditons avec... Rappelez-vous, Jésus disait, si celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang a la vie éternelle. Mais de quoi parlait-il? Il parlait-il il dit, les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie, dans Jean chapitre 6, verset 63. Je crois que c'est verset 63. Hein, donc Jésus disait, il ne parlait pas de sa chair physique, ni de son sang physique, mais il parlait de ses paroles. Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Ce sont elles qui apportent la vie éternelle. Et donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu dans le cœur, nous recevons qui? Jésus. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, Jésus est la parole. La parole, elle était avec Dieu. Elle était Dieu depuis le commencement. Hein, vous voyez? Reçu dans le cœur, le levain de la vérité disciplinera les désirs. Donc si nous recevons la parole dans l'amour de la vérité, si nous recevons la parole en recevant Jésus, celle-ci aura une capacité pour lever dans nos cœurs et expulser le péché si nous la recevons en l'étudiant et en y obéissant. Et elle disciplinera alors les désirs, purifiera nos pensées, adoucira le caractère. Ce levain de la vérité vivifiera les facultés intellectuelles et les énergies morales. Ce levain, il augmentera notre capacité de sentir et d'aimer. Est-ce que vous vous sentez des fois incapable de sentir et d'aimer dans le sens de sentir et d'aimer Dieu, hein, sentir et aimer les êtres humains? Bon, et encore, ça c'est très limité. C'est assez proportionnel à notre capacité à sentir et aimer Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, si nous la recevons dans l'amour de la vérité, en recevant non pas simplement une connaissance, mais Jésus lui-même, eh bien, elle aura cette faculté d'augmenter notre capacité de sentir et d'aimer Dieu. Combien avons-nous besoin de cela, frères et sœurs? Hein? N'est-ce pas un monde aujourd'hui qui est si refroidi que vous voyez les jeunes, et c'est même plus les jeunes, juste. C'est-à-dire que cette iniquité multipliée a une telle faculté de refroidir la capacité de ressentir. C'est-à-dire que les personnes sont complètement endurcies. Eh bien, la parole de Dieu, si nous la recevons, l'étudions et ouvrons nos cœurs à elle, aura la faculté et la capacité de adoucir notre caractère et de nous donner la capacité d'augmenter notre capacité de sentir et d'aimer Dieu, sentir la vérité. Sentir l'influence de la vérité sur nos cœurs pour opérer une réelle transformation. Et donc, frères et sœurs, nous avons également besoin de réaliser notre ch nature charnelle dans toutes ces réalisations parallèles, etc. Il y a une qui est profondément grande, il y a un de nos besoins qui est profondément grand également, en parallèle de cet agent de transformation, de ce moyen de transformation qui est la parole de Dieu, à savoir Jésus dans notre propre cœur, par la puissance du Saint-Esprit et son secours. Nous avons également besoin de réaliser combien est profondément trompeuse notre nature charnelle, et également combien est vaine une religion purement extérieure. J'aimerais, en passant ici, nous partager les paroles de Vers Jésus à la page 26, paragraphe 2, et page 27, paragraphe 1, qui s'imbrique, je devrais dire, très bien dans toute cette méditation. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, nous lisons au sujet de personnes qui ont l'apparence de la piété mais qui en renient la forme. Et donc c'est un aspect très prédominant, très présent dans cette société dans laquelle nous vivons, dans laquelle le christianisme est devenu plus une forme qu'une force et qu'une puissance. Et donc, j'aimerais attirer votre attention vers le suivant. Vers Jésus, page 26 et 27. Il nous est impossible par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme de péché dans lequel nous sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais et nous sommes incapables de les changer. Qui peut tirer la pureté de la souillure? Personne. Job chapitre 14, verset 4. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et en effet elle ne le peut. Romains chapitre 8, verset 7. L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur ni purifier les sources de la vie. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer vers Dieu et vers la sainteté. Vous voyez notre profonde, cela ici se traite de notre profonde incapacité à changer, de notre profonde incapacité à désirer le bien, de notre profonde incapacité à désirer Dieu. Vous comprenez? L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire que notre nature, notre affection, notre disposition naturelle est ennemi de Dieu. Et donc, simplement par une amélioration de qui nous sommes, nous ne pouvons pas parvenir au salut. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le paragraphe suivant, le Sauveur dit, si un homme ne naît d'en haut, s'il ne reçoit un cœur nouveau et des aspirations nouvelles qui l'entraînent vers une nouvelle vie, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est un élargissement des paroles de Jésus, à savoir que le témoignage de Jésus élargit les paroles que Jésus avait déclarées sur la terre, à savoir, il disait, si un homme ne naît d'en haut, ou si un homme ne naît de nouveau, hein, c'est la note de marge de la Bible King James, si un homme ne naît d'en haut, s'il ne reçoit un cœur nouveau et des aspirations nouvelles qui l'entraînent vers une nouvelle vie, il ne peut voir le royaume de Dieu, sans parler d'y rentrer. Et donc, nous voyons qu'ici que la complète vanité d'une religion des formes, en ce que si c'est simplement une culture intellectuelle, une éducation, un exercice de notre propre volonté ou nos propres efforts humains, cela ne suffit pas parce que nous sommes encore charnels. Et donc c'est précisément cette réalisation dont nous avons besoin en parallèle avec la suivante. À savoir, nous avons besoin de naître nouveau, nous avons besoin de l'esprit, nous avons besoin d'un renouveau, nous avons besoin d'une conversion. Mais comme nous l'avons vu, la conversion ne s'arrête pas lorsque Dieu nous donne ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau est véritablement l'intervention surnaturelle, de l'Esprit de Dieu dans nos propres cœurs. Hein, comme c'était marqué, je crois, dans Ézéchiel, chapitre 31, peut-être, que Dieu nous promet qu'il nous donnerait un cœur nouveau, qu'à la place de notre cœur de pierre, il nous donnerait un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur tendre pour ressentir. Hein, il nous promet cela. Et donc, lorsque nous n'avons absolument aucun espoir de ressentir, d'aimer Dieu, Dieu nous donne de nouvelles affections. Mais cela ne s'arrête pas là. Ça qui est très intéressant. Je le lis dans la Signs of the Times du 9 mars 1882, paragraphe 15, je suis en train de conclure, qui nous dit le suivant. Ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, hein, l'expérience de la nouvelle naissance est une chose réelle. C'est-à-dire que à travers la parole de Dieu, à travers la prédication, à travers la réflexion, la méditation et la conviction de l'Esprit de Dieu, nous parvenons à cette nouvelle naissance. Mais ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance n'ont encore que commencé la vie chrétienne. Les paroles de l'apôtre leur sont adressées de point, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Très intéressant. Vous trouverez ces paroles dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Et je vais vous le lire telles qu'elles sont écrites dans ma Bible Osterwald. Je pense que d'ailleurs c'est ainsi qu'elles sont données dans la Bible Second, à savoir, ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Mais en anglais, donc c'est-à-dire dans la Bible King James, il est écrit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et la différence et la distinction est gigantesque. Et nous voulons élargir, pas simplement la distinction, mais l'exhortation qui nous est faite de marcher en Christ. De la même manière que nous avons reçu Jésus-Christ. Et voilà cet élargissement sur lequel je vous invite avec moi à réfléchir quelques instants, frères et sœurs. Parce que, voilà, comme nous l'avons vu, quand nous avons traversé ces réalisations et ces expériences sur lesquelles nous venons de méditer, il nous faut aussi réaliser que la nouvelle naissance et le cœur nouveau, ce n'est pas tout. À savoir, lorsque nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, cela n'est que le début de l'échelle et de la vie chrétienne. Il nous faut ensuite marcher avec et en Jésus-Christ. Non pas simplement avec, mais en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes en lui, il est en nous. Hein? Comme Jésus disait d'ailleurs dans sa prière sacerdotale de Jean chapitre 17, hein, vous vous rappellerez, je prie pour qu'il soit un comme toi, tu es en moi et moi en toi, et moi en eux. Vous vous comprenez? Marcher pas simplement avec Jésus, mais en lui. Et quelle est cette échelle dont la nouvelle naissance n'est que le début? Dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8, je la mentionne très brièvement, mais elle a toute son importance, à savoir, à la foi, nous devrions ajouter la vertu, donc foi, vertu, à la vertu, nous devrions ajouter la science, c'est-à-dire la connaissance, connaissance, nous sommes appelés à ajouter la tempérance. À la tempérance, nous sommes appelés à ajouter la patience. À la patience, nous sommes appelés à ajouter la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour, c'est-à-dire agapé. Telle est donc cette échelle que nous sommes appelés à gravir et dont la nouvelle naissance n'est que le premier niveau. Et j'aimerais donc réfléchir avec vous sur les paroles suivantes qui se trouvent dans The Faith I Live By, à la page 125 et au paragraphe 3. Vous demandez-vous, comment puis-je demeurer en Christ? La réponse est donnée. De la même manière que vous l'avez reçu au début. Elle cite, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ensuite, Hébreux chapitre 10, verset 38. Le juste vivra par la foi. Hein? Donc, pas le juste sera justifié, mais pas le pécheur sera justifié, mais le juste vivra par la foi. Vous comprenez? Marchez en lui. Je lis. Vous vous êtes donné à Dieu pour être entièrement à lui, pour le servir et lui obéir. Et vous avez pris Jésus comme sauveur. Vous ne pouviez pas vous-même expier vos péchés ou bien changer votre cœur. Mais après vous être donné à Dieu, vous croyez qu'il a fait tout cela pour vous, pour l'amour de Christ. C'est par la foi que vous êtes devenu la propriété de Christ et c'est par la foi que vous devez grandir en lui, en donnant et en prenant. Vous devez tout donner, votre cœur, votre volonté, votre service, vous donnez à lui pour obéir à toutes ses exigences, et vous devez tout prendre. Christ, la plénitude de toute bénédiction, pour demeurer dans votre cœur, pour être votre force, votre justice, votre œuvre, votre aide éternelle, pour vous donner le pouvoir d'obéir. Consacrez-vous à Dieu dès le matin, faites-en la toute première de vos tâches, priez ainsi, « Prends-moi, Seigneur, comme entièrement à toi. Je dépose tous mes projets à tes pieds, utilise-moi aujourd'hui à ton service, reste avec moi et que toute mon œuvre soit accomplie en toi. » Il s'agit d'une affaire quotidienne. Chaque matin, consacrez-vous à Dieu pour la journée. Remettez-lui tous vos projets, vous disposant à les réaliser ou à les abandonner selon les indications de sa providence. Ainsi, jour après jour, vous pouvez remettre votre vie entre les mains de Dieu et votre vie sera de plus en plus façonnée conformément à la vie de Christ. Qu'est-ce que c'est ? Consacrez-vous à Dieu dès le matin, faites-en la toute première de votre tâche. Il s'agit d'une affaire quotidienne. Pourquoi ? Parce que notre vie quotidienne détermine notre destinée. Et donc, nous devrions en faire notre tâche première et quotidienne de remettre à Dieu à la fois tous nos projets, toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes, tous nos plans, afin que nous puissions réellement être rendus, comme nous l'avons lu ici, façonnés conformément à la vie de Jésus-Christ. Et donc voilà, frères et sœurs, je pourrais dire beaucoup plus d'autres choses pourraient être dites, j'aurais pu dire beaucoup de choses mieux, mais je prie que, à travers ces réflexions, aussi limitées qu'elles puissent être, le Saint-Esprit puisse accompagner cette réflexion, cette méditation, que le Saint-Esprit et Dieu puissent agir dans le cœur de chacun d'entre nous pour que nous puissions non seulement réaliser notre grand besoin, non seulement à obtenir ces réalisations sur l'imminence du temps et notre besoin non seulement de recevoir Jésus, de marcher, mais de marcher en lui. Et puisse Dieu vraiment créer en nous de nouveaux désirs. Et ensuite, puissions-nous coopérer avec ce nouveau désir. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, ce n'est pas tout, la nouvelle naissance, ce n'est pas tout, parce que nous pouvons être nés de nouveau et malgré tout nous perdre. Comme c'est le cas de beaucoup de personnalités, de beaucoup de personnages de la parole de Dieu qui nous sont donnés en exemple de notre nécessité. Si nous tenons debout, de prendre garde que nous ne tombions. Parce que la nouvelle naissance n'est pas tout. Quoique certains évangéliques aient cette impression, la Bible ne l'enseigne pas ainsi, et nous voyons